Europe 1. Bonjour, c'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Soyez les bienvenus au cœur de l'histoire. La Marseillaise, notre hymne national. Elle est connue du monde entier, mais le nom de son compositeur, Rouget de Lisle, a été comme englouti par cette œuvre magistrale dont il fut l'auteur. Né en 1760, il a traversé la Révolution et tous les régimes politiques qui l'ont suivi. Le Directoire, l'Empire, la Restauration, les Trois Glorieuses. Alors que la nation française lui doit l'hymne magnifique qui l'incarne, la symbolise, Rouget de Lisle s'éteint en 1836 dans la plus complète indifférence. C'est son histoire que je vous propose de découvrir dans cet épisode en deux parties. Première partie, le poète malgré lui. Avril 1792, la ville de Strasbourg est en ébullition. La France a déclaré la guerre à l'Autriche. La Révolution française, en marche depuis 1789, est en train de bouleverser l'équilibre des monarchies d'Europe. Craignant que les idées révolutionnaires ne finissent par pénétrer chez elles, elles se sont coalisées et menacent d'envahir la France, rendant la guerre inévitable. L'Assemblée nationale française a déclaré la nation en danger et appelé tous les volontaires de France à venir participer à la défense de la patrie. Cette guerre contre l'Autriche, souligne-t-on à Paris, n'est pas dirigée par des intérêts royaux ou dynastiques, non. C'est un conflit de convictions, de principes, un conflit qui oppose le monde ancien au monde nouveau, le monde de l'esclavage, représenté par la vieille monarchie autrichienne, au monde de la liberté, représenté par la France révolutionnaire. À Strasbourg, la nouvelle a soulevé l'enthousiasme. On n'attend plus qu'une chose, le moment d'en découdre. Le maire de la ville, Dietrich, qui convie souvent à dîner tout ce que la région compte d'esprits forts, philosophes, écrivains, artistes, décide de célébrer l'annonce de la guerre par une soirée festive. L'Assemblée nationale a confié le commandement de l'armée du Rhin au général Luckner, un enfant du pays. C'est un homme humble par ses origines, fils de brasseur, fidèle aux idées nouvelles. Un pur produit de la Révolution, dont le cœur, dit-on à Paris, est plus français que l'accent. C'est cette armée du Rhin qui va être lancée en territoire germanique. Ces soldats, cela ne fait aucun doute dans l'esprit des Français, seront accueillis comme des libérateurs. La liesse est telle à Strasbourg que le matin de son départ pour le front, on fait présent à Luckner de 4000 chevaux de trait. Dans certains bataillons, on craint un moment des désertions, car à Paris, on n'a pas de quoi payer ses troupes. Qu'à cela ne tienne, le général Victor de Breuil a offert à chaque homme 2000 francs prélevés sur sa propre fortune pour galvaniser les réfractaires. Avec de tels hommes, la Révolution va surmonter tous les obstacles. Dans les rues de Strasbourg, la Société des Amis de la Constitution, dont fait partie le maire Dietrich, exhorte le peuple à s'armer pour défendre les idéaux révolutionnaires.
« Aux armes, citoyens, courez à la victoire, marchons, soyons libres jusqu'au dernier soupir. »
Vient l'heure du dîner organisé par Dietrich. Parmi les invités, le général Victor de Breuil, considéré donc comme le héros du moment pour sa fidélité à la Révolution et son geste munificent envers les soldats de l'armée du Rhin. Son aide-de-camp, Desaix, futur maréchal de Napoléon, est également présent, ainsi qu'un certain général Achille de Chastelet, le lieutenant Maclay et deux capitaines. Caffarelli et un certain Rouget de Lisle, venu de Paris. Rouget de Lisle réside non loin de là. Il est logé à côté des époux Dietrich, rue de la Mésange, une rue petite, étroite et courte, avec ses grandes maisons à pignons et ses cheminées carrées, comme il y en a tant dans la ville de Strasbourg. À ce dîner, on parle victoire, on parle liberté, on parle gloires et lauriers.
Les mots « enfants de la patrie » revenaient souvent dans la causerie. C'est ainsi que se nommaient les bataillons des jeunes volontaires, notamment celui de Strasbourg, que commandait le fils Dietrich. Et sans cesse revenaient ces phrases dans le ton du jour. « Aux armes, citoyens, l'étendard de la guerre est déployé. Le signal est donné aux armes. Qu'ils tremblent donc, ces despotes couronnés, marchons. Soyons libres jusqu'au dernier soupir. »
Quelle joyeuse assemblée! Vin et champagne coulent à flots. Les hommes parlent de guerre. Les femmes, lassées d'une conversation dont elles sont exclues, souhaiteraient plutôt parler art, et plus particulièrement musique. Eh bien, qu'à cela ne tienne, l'assemblée s'entend sur un thème commun. Nous parlerons donc chansons patriotiques. On énumère les succès, aujourd'hui on dirait les tubes du moment. Parmi eux, la Carmagnole, un vrai succès. Singulière fortune d'ailleurs que celle de cette chanson. À l'origine, une simple musique de salon, une contredanse pour être plus précis. Marie-Antoinette la jouait au clavecin. Entendue durant l'année 1790 depuis la rue, par les fenêtres des Tuileries, cette chanson a été reprise par le peuple qui lui a associé des paroles de son cru. Ainsi est né le célèbre « Ah, ça ira, ça ira, ça ira ». Le maire de Strasbourg et ses convives estiment cet air indigne des soldats qui s'apprêtent à donner leur vie pour la Révolution. Dietrich se tourne alors vers le seul de ses invités qui soit musicien, le capitaine Rouget de Lille.
« Mais vous, monsieur de Lille, qui parlez le langage des dieux, vous qui maniez la harpe d'Orphée, pourquoi ne tenteriez-vous pas cela ? Trouvez un beau chant pour ce peuple soldat qui surgit de toutes parts à l'appel de la patrie en danger, et vous aurez bien mérité de la nation. »
Le dîner s'achève. Rouget de Lille est troublé. Et surtout, il est passablement ivre. Il respire à plein poumon l'air doux qui glisse par la ruelle. Il n'a que quelques pas à faire pour gagner la rue de la Mésange où se trouve son logis. Enfin chez lui, il se dirige vers son violon posé sur la table. Les mots résonnent en lui. « Aux armes, citoyens, marchons, marchons !» À mesure qu'il égrène les notes sur son instrument, des paroles lui viennent. Elles s'unissent indissociablement à la mélodie qu'il est en train de former dans un état de demi-sommeil. Il écrit 5 strophes, puis, épuisé, pose son violon, s'étend sur son lit et s'endort. Le lendemain matin, levé de bonne heure, il se rend chez un ami auquel il fait écouter sa composition. Ce dernier modifie quelques vers. Puis Rouget de Lille, fébrile, se rend chez Dietrich. Le soleil est alors à peine levé. Il ne prend pas la peine de juger sa production. Il se dit juste que, bon, cela doit être bien bon ou bien mauvais, nous verrons. On se met à table pour le déjeuner. Le déjeuner, car à l'époque, on déjeune à 8 heures le matin. Puis, au moment du dessert, Dietrich, découvrant la partition, entreprend de la déchiffrer, tandis que Rouget de Lille se met au clavecin. L'hymne retentit alors par la voix vibrante et chaleureuse du maire de Strasbourg, dont tous les habitants connaissent le talent pour le chant. Son épouse notera ce jour-là: le morceau de Monsieur Rouget a été joué chez nous à la grande satisfaction de l'assistance. Son auteur ne le sait pas encore, mais la composition qu'il vient de faire entendre, d'abord connue sous le nom de chant de guerre pour l'armée du Rhin, deviendra sous peu la Marseillaise et l'hymne officiel de la France. En avril 1792, Rouget de Lille est un inconnu. S'il a été invité à pénétrer dans le cercle restreint des invités choisis du maire de Strasbourg, c'est en vertu de cette loi singulière de l'époque qui veut que toute personne arrivant de Paris jouisse en province d'une réputation de notoriété a priori. Il a, c'est vrai, un court passé d'auteur dramatique et de compositeur dans la capitale. Mais on ne peut pas dire qu'il y ait brillé par son succès. Il écrit des romances, mais n'a guère d'inspiration pour leurs titres. Aussi sont-elles systématiquement associées à l'anecdote qui les a vues naître. On trouve ainsi une chanson intitulée
« À Madame P. » qui, la première fois qu'elle chanta, prit une voix fausse, grêle et tremblotante, absolument semblable à celle d'une vieille.
Une autre,
à N, dans le jardin de laquelle j'ai été forcé de passer la nuit.
Ou encore,
à D, en lui envoyant quelques bouteilles de vin blanc.
Et cette bluette charmante,
à madame de L, qui faisait une quête pour payer la nourrice d'un enfant dont la mère était morte en couche et dont le père était aveugle. Prenez pitié d'un petit malheureux.
Comment Rouget de Lisle peut-il être à la fois l'auteur de ces niaiseries et de l'hymne qui a accompagné les heures les plus glorieuses de l'histoire de France? Pour mieux le comprendre, il faut revenir sur son histoire. Joseph le comte de Lisle est né le 10 mai 1760 à Lons-le-Saunier dans le Jura. Il est le fils aîné d'une famille de 8 enfants. Son père est avocat. Il a 6 ans quand il découvre la musique. Des musiciens ambulants passent devant chez lui. Le chef de la troupe le fait monter sur un cheval et lui confie des timbales. Le garçonnet, aux anges, se met à frapper parfaitement en mesure. Une vocation est née. Ses parents sont déjà des musiciens amateurs passionnés. Au collège, quelques années plus tard, il apprend le violon. Le petit Joseph trouve dans la pratique de la musique un refuge propre à dissiper ses tourments, car il est un enfant sensible, timide, complexé. Affecté d'une difformité héritée de son père, il fait fuir les filles et ne suscite pas l'amitié des garçons.
Tout le monde était plus ou moins bossu dans cette famille-là. Le père, la mère étaient bossus. Ça avait été un mariage de bossus. Et la fatale hérédité s'était naturellement étendue sur tous les rejetons.
Son nom de naissance est simplement Rouget, mais son grand-père, qui avait voulu entrer dans les cadets, avait adjoint à ce nom une particule, de Lisle, précieux sésame, sans lequel il n'aurait pu être accepté dans aucun corps d'armée du roi. C'est donc, tout naturellement, que Joseph Rouget se fait appeler dès son adolescence Rouget de Lisle. Non sans humour d'ailleurs, il n'hésitera pas à signer parfois Rouget, soi-disant de Lisle. En 1776, à l'âge de 16 ans, il gagne Paris et entre à l'école militaire. Commencent alors des années cruelles pour le jeune homme. Tout ce qu'il entreprend est comme frappé de la malédiction du ridicule. Un premier amour non partagé va le blesser durablement. Le malheureux Rouget de Lisle passe 6 ans à l'école militaire après avoir transité par diverses garnisons, puis revient dans son pays natal, le Jura, en 1789, avec le grade de lieutenant. Les officiers du génie ont alors une position particulière. Sans armes, sans corps de troupes à commander, ils constituent une catégorie à part, et c'est à peine si dans les villes où ils sont nommés, on les identifie comme des soldats. Mais leur qualité d'ingénieur en fait une classe prisée par les édiles de la région. On les invite fréquemment dans les salons où ils jouissent à la fois des privilèges de la noblesse et du prestige des officiers d'active. Rouget dispose alors de tout son temps pour se livrer à ses deux passions, le violon et la poésie. À l'époque, pour les hommes politiques comme pour les hommes d'armes, écrire des vers est à la mode. Carnot, Robespierre, Bonaparte s'essayent tous à la poésie avec plus ou moins de bonheur. Robespierre, lui, fidèle à l'héritage de Jean-Jacques Rousseau, célèbre l'homme de la nature. Mais Carnot, lui, décrit ses tumultueux désirs. Et Bonaparte, qui n'est pas encore Napoléon Ier, écrit une tragédie dont le héros est un chien nommé César. Joseph Rouget de Lisle se met donc avec ardeur à la composition de drames qu'il a l'intention ferme de faire représenter à Paris. En 1790, il prend un congé et se rend dans la capitale pour présenter ses œuvres, d'abord à l'opéra, puis à l'opéra comique. il propose un opéra féerie appelé Almanzor et Féline. Bon, ça lui est refusé. Puis un autre ouvrage, L'Aurore d'un beau jour, ou Henri de Navarre, rejeté aussi. En désespoir de cause, il présente une troisième pièce, Créqui et Clémentine, ou Bayard en Bresse, qui, elle, est enfin acceptée, annoncée pour une série de 12 représentations le 21 février 1791. Mais l'œuvre est un véritable four et n'aura droit, pour cette fois en tout cas, qu'à cette unique représentation. La critique acerbe fait observer que les airs chantés ne sont pas à la hauteur du personnage évoqué et que Bayard ne semblait pas à sa place au milieu des ritournelles. L'avenir de notre soldat poète, on le voit, est encore plus qu'incertain. Comment le destin de ce jeune trentenaire va-t-il basculer et faire de lui l'auteur de l'immortelle Marseillaise? C'est ce que nous verrons dans la seconde partie de cet épisode consacré à Rouget de Lisle, immortel auteur de la Marseillaise.